19h05. Hey, ça aurait été quoi ton nom de lutteur, toi, Jeff, si t'avais complété tes cours de lutte de la NSPW?
Ah, ben, j'aurais sûrement été dans une catégorie pas du tout créative. Moi, mon lutteur préféré, c'est Bret the Hitman Hart.
Bret the Hitman Hart.
Fait que d'après moi, je me serais appelé le Hitman.
Jeff the Hitman Fortin. Ouais. Yeah. C'est pas très vendeur.
Ah, c'est pas mauvais, moi, je trouve.
Non, je trouve ça vendre.
Hitman.
Hitman.
Ça fesse un peu, justement.
J'aurais mis Hitman Fortin, moi.
Ouais, Hitman Fortin. Ouais. Ou
juste
ouais.
Hitman, on peut-tu? Parce que Fortin, ouais. C'est pas Rockstar. C'est québécois, c'est un nom de famille.
Ouais.
Ou je me serais appelé Bret Fortin.
Ouais.
Pourquoi Bret?
Parce que c'est Bret Hart, mon lutteur préféré. C'est parce que.
Ok, ça revient ça.
Ouais, mais c'est parce que l'anecdote, c'est que Kevin Owens, son vrai nom, c'est Kevin Steen, le lutteur québécois. Et il s'est appelé Kevin Owens en l'honneur d'Owen Hart, son lutteur préféré qui est décédé.
Ouais. Tu sais, moi, celui que je regardais beaucoup dans les années 80, c'était un gars à qui je voulais ressembler. Va le voir, Pascal, sur les internets.
C'est qui? Le nom,
c'est Rick Martel.
Ben oui!
Avec ses fameux biceps là, qui étaient extrêmement impressionnants. Il y avait les biceps plus gros que sa tête. Puis dans le temps, les gars s'entraînaient du matin jusqu'au soir. Là.
C'est sa coupe Longueuil que t'aimais? Ou
Oui, il y a ça aussi.
Ah oui, la coupe Longueuil.
Ça revient à mode en passant, c'est V. Ça va être correct. Là.
Ouais, ben, écoute, la mode n'est pas toujours belle.
Mais le vrai nom de Rick Martel, c'est pas Rick Martel.
C'est
pas...
Ricky Martin.
Non, ouais, mais c'est pas Eric Martel non plus. Son vrai nom, c'est Richard Vigneault.
Ah, ouais. C'est ça, c'est moins rockstar.
Donc là, pour aller aux États-Unis pour faire carrière en lutte, lui, il s'est
très
appelé
fort.
Un autre nom.
C'est une bonne idée, Rick Martel.
Mais là, tu vas voir son neveu, Sean Martel, quand tu vas être là le 27 septembre. Après moi, Sean doit se battre certain.
Mais c'est-tu vraiment son neveu de sang, là?
C'est vraiment son neveu de sang, oui.
Puis emprunter le nom d'emprunt de son oncle.
Oui, exactement. Ben, le frère de Ricky, Kevin, luttait encore dernièrement dans la NSPW. Là. Oui. Malheureusement, on lui envoie nos pensées. Là. Il est atteint d'une maladie, là, donc il a arrêté de lutter. Il a fait son combat contre son fils lors de Golden Opportunity au mois de juin.
Ça,
son
beau.
Fils a gagné.
Ouais. C'était mouvant,
il a
ça.
Laissé gagner son fils.
Son fils a gagné avec la sœur qui était dans le coin du fils. Puis là, les trois se sont fait une accolade à la fin du combat. Puis Kevin a levé le bras de chambre.
Okay.
Sous des applaudissements nourris. Ouais.
Christian nous donne un nom pour toi, Jeff.
Ah, ouais, donc.
Jeff Good Vibe Killer.
Oh!
En speedo rouge.
Good Vibe Killer, j'adore.
C'est bon. Mais moi, j'ai toujours pas de nom de lutteur pour mon gars. Là, Luttons contre la faim, qui est présenté par la station Boulevard 102.1, par la belle gang de matériaux Audet, puis par la NSPW.
Il n'y a pas de choix final, Yannick.
Le 27 septembre, à 20h, au Centre Vidéotron, pas de choix final.
Mais il y a une banque.
Moi, je suis très ouvert. Là. Mais en fait, j'en ai pas trouvé un qui me fait jusqu'à maintenant. Il va y avoir 7 combats, ça va être toute une soirée. Vous l'avez vu, Stephen Sullivan n'était pas d'accord avec le fait que je dise que c'était pas tous les lutteurs qui étaient en forme. Il a poigné les nerfs, il voulait s'en prendre à moi. Denis Gravel le laissait faire. Et finalement, ben, je suis allé foutre le bordel à son 500e spectacle, son 500e gala, devrais-je dire, de la NSPW au Stade Canac. Je l'empêchais de gagner, mais on a décidé...
C'est au Centre Horizon. Faut que je te coupe, Yannick, là, parce que là, t'es dans ta tête, mais c'était dit au Centre Vidéotron. Je comprends que t'es hot, mais pas à ce point-là. C'est au Centre Horizon.
Centre Vidéotron,
que t'affrontes, Stephen, ça.
D'après moi, on remplit 18 000 personnes pour toi contre ça.
Mais oui! Donc, c'est effectivement, merci Pascal, c'est au Centre Horizon. Il y a 7 combats avec le main event, c'est moi contre Gros Gorille, qu'on appelait dans le temps Stephen Sullivan. Donc, je vais essayer de mettre fin à sa carrière. Je fais du MMA présentement. J'ai appris du Muay Thai.
Mm-hmm.
J'ai appris le Muay Thai.
Je suis tellement content d'être la coach à
Oublie
Stephen.
Pas le coude.
Le coude!
Blessé au coude, Sullivan.
C'est plus, il faut que tu t'habitues avec tes tibias. Là. C'est un peu plus raide. Mais bref, on veut remplir la place puis montrer aux auditeurs qui sont aussi crinqués. Donc, de passer la soirée avec nous autres et s'amuser. Tous les animateurs de la station seront présents. Il va y avoir un service de bar sur place. Donc, il va y avoir de la bière bien en masse. Il va y avoir un Ben, Tommy, avec toute sa gang de Big Muff qui vont être là. Puis c'est important de vous dire que chaque billet que vous allez acheter, cet argent-là va tout à la bouchée généreuse. Il n'y a pas une scène qui va dans les poches de personne, sauf des gens qui vont aller là pour se nourrir, bref, à la bouchée généreuse. Puis Matériaux Audet a accepté d'être avec nous là-dedans. Donc, si vous avez des noms de lutteurs que vous pouvez me proposer, les amis, je suis très ouvert. Ça me prend quelque chose de masculin, là.
Ouais, là, par contre, on demande ça depuis une semaine. On continue parce qu'il y a une belle façon on va décider comment tu vas t'appeler, Yannick. Ça ne sera pas toi qui va décider.
Ben là, tu sais, parce que l'autre, je l'appelle Gros Gorille. Il y a un auditeur qui a dit, ben, on va t'appeler Banane Marceau. C'est parce que je veux pas qu'il me mange.
Là, Yann Solo, j'aime bien.
Yann Solo?
Yann Solo.
Ça va être à peu près ça, parce qu'il y a juste Reg de mon bord dans la station. Très tout le monde fort. Est persuadé ouais. que je vais me faire casser la gueule ce soir-là.
Marceau, la famille, je trouve ça quand même fort.
Mais bref,
dans les circonstances.
L'idée, c'est de remplir la place puis de fournir de la nourriture à toutes les familles qui vont à la Bouchée Généreuse. Donc, merci à Madrie Audet. La Bouchée Généreuse, c'est 1100 familles aidées chaque semaine, dont près de 2000 enfants. 52 500 paniers par année qu'on donne à la Bouchée Généreuse. Puis, si vous ne pouvez pas être là, ben, vous pouvez donner à la Bouchée Généreuse, bien entendu. Mais sinon, pour les billets, c'est lepointdevente.com. Lepointdevente.com. Vous tapez NSPW et vous allez voir, c'est la soirée du 27 septembre. Déjà, plus de 200-225 billets de vendus, de ce que je comprends. Là. Et là, ben, je donne 4 billets à l'instant si vous voulez venir faire votre tour. Il reste d'excellents billets. Donc, 418-971-1021. 418-971-1021. Ça me prend un nom de lutteur.
J'ai deux choses qui viennent de rentrer sur mon Messenger personnel. Premièrement, Nathan
Pourquoi
Meilleur.
Les gens t'écrivent à toi?
Ben, parce que là, je suis en nombre. Nathan Meilleur, il m'écrit Jeff La Forteresse Fortin. J'aime bien ça.
La Forteresse Fortin.
Mon nom ouais. de lutteur.
Tu peux-tu dire à Nathan Meilleur, là, qui n'est pas toujours Target, là, que ouais. c'est mon nom de lutteur, il faut le trouver, pas le tien?
Ouais, mais j'ai ton ami Steve Boutette qui m'écrit personnellement.
Mon ami.
Ouais.
Il est redevenu mon ami.
Ben, ton ennemi, évidemment.
Parlez pas de même. De mon poulain.
Il a écrit Yann Morceau parce que c'est en morceau qu'il ouais, va finir.
Très fort. Le défiguré est sorti aussi. Il y a des petites appels hey, à l'aide. Là,
c'est quoi? Même mes enfants prennent pour Grogory.
Ah ouais,
en passant, on te réserve une surprise de costume, pas juste le
t'es
sien.
T'es trahi?
Ils sont persuadés que Stephen Sullivan va me passer dessus. Mais
parce qu'ils connaissent le père.
Je vais tout faire pour que ça n'arrive pas. Donc, 4 billets à l'instant, 418-971-1021, 418-971-1021. Ça me prend un nom de lutteur, les amis. Puis merci beaucoup à la NSPW, la Bouchée Généreuse, Boulevard 101, la CNESST dans mon cas. Et,
je pense que t'es plus assurable parce que c'est de prendre trop de risques. Avec un ego démesuré vient trop grand risque. Et là, ils ont
je
dit
représente
non.
la station. Fait que si je finis quadriplégique, c'est
non.
la CNESST.
Non, je pense qu'ils ont laissé ça entre tes mains. Ils ont dit c'est tellement généreux, Yannick, qu'on te laisse tout ça dans ton bord.
Ils ont dit ça va être bénévole.
On va annuler okay. le combat à dernière minute. Le combat est annulé. Ouais. Nick monte sur le ring puis dit j'ai une plainte de la CNESST. Je peux pas laisser mon employé faire ça.
Ah, oh, ouais, on savait pas. Désolé. Okidou, hey, toi, tu avais une conférence à
ouais.
couvrir ce matin?
Ben oui, j'étais allé à 10h30 dans un autobus scolaire, imagine-toi donc.
Ouais. Pourquoi on parle des autobus scolaires?
On parle des autobus scolaires, c'est le Parti conservateur du Québec qui parle de ça parce que c'est le même règlement que pour les voitures, c'est-à-dire qu'à compter de 2035,
ouais.
seuls les achats d'autobus électriques vont être acceptés. Puis même les achats ont commencé depuis 2021 dans le but qu'en 2035, on soit seulement en autobus électrique. Donc, on parle de ça parce que pour le Parti conservateur du Québec, à l'heure actuelle, il y a plusieurs enjeux, surtout en région, quand ouais. on parle d'autonomie du véhicule. Mais aussi, c'est que la CAQ a fait, autrement dit, une étude pour passer deux nouveaux règlements par rapport à cette règle-là, à cette loi-là qui oblige les transporteurs à acheter des autobus uniquement électriques. Le premier, c'est que l'achat de minibus diesel va de nouveau être permis et que les transporteurs vont pouvoir garder leur autobus à diesel plus que 12 ans, contrevenant ainsi à la réglementation actuelle. Fait que pour le PCQ, la modification de ces deux décisions est la preuve que la cible de 2035 est irréaliste. Je te laisse entendre Adrien Pouliot là, qui présentait le mémoire avec Éric Duhem.
C'est un constat d'échec. C'est un constat d'échec de la politique d'électrification du transport scolaire. Si ça fonctionnait bien, il n'aurait pas été obligé de passer ces deux règlements-là. Bon, pourquoi est-ce que c'est un échec? D'abord, le problème de la technologie. L'autonomie est tout simplement pas là pour un autobus scolaire. Lyon, par exemple, Lyon annonce 150 km, mais ça, c'est quand il fait chaud et qu'il fait beau. En pratique, c'est plus proche de 120 km. Et 120 km pour un circuit d'autobus scolaire, peut-être que c'est correct là, à Sillery ou sur le plateau Mont-Royal à Montréal, mais en région, par exemple, en Estrie ou dans Bécomo ou à Sept-Îles, c'est clairement pas suffisant. On a un exemple d'un transporteur scolaire de l'Estrie qui dit, écoute, moi, 60% de mes trajets sont entre 140 et 280 km. Alors, c'est évident, quand tu as 120 km, c'est pas assez.
Alors, c'est tout simplement ça, un problème d'autonomie, aussi un problème de financement, parce que même s'il y a des subventions, le transporteur doit débourser 150 000 $ de plus par autobus à l'achat. Ça coûte 15 000 $ après subvention l'installation de bornes. L'achat de nouvelles batteries va coûter 90 000 $ aux transporteurs. Puis les économies qu'on fait en diesel versus toute la facture, les investissements, les coûts en hydroélectricité, bien, ça ne permet pas de faire des économies tangibles pour le transporteur. Fait que ça devient également un gouffre financier pour ces entreprises dans le transport.
Il y a une école, dans le secteur de l'ancien zoo qui a été bâti, puis on a pris des jeunes de la Haute-Saint-Charles pour aller à cette école-là. Mm-hmm. Puis, bien entendu qu'il y a du transport scolaire. Puis l'entreprise qui était supposée faire le transport scolaire n'est pas capable de rendre le service parce qu'ils n'ont pas d'autobus de disponible. Donc, ils ont envoyé tous ces enfants-là dans cette école-là en pensant que tout le monde allait avoir du transport scolaire. Ils n'ont pas été capables. On a cherché à savoir pourquoi ces enfants-là n'avaient pas le droit à un transport scolaire. Et le transporteur a dit, c'est parce que j'ai pas les moyens d'acheter des autobus électriques.
Exactement.
Ouch. Là, on commence à se tirer dans le pied.
Oui,
honnêtement,
vraiment.
Dans cette situation-là.
Tu n'avais entendu parler de ça?
Puis je trouve ça triste qu'on ne soit pas capable de faire des embranchements aussi à certains règlements ou encore propositions ou encore mise en place de lois, si on veut. J'ai rendu là, c'en est une, là. Quand il y a des problématiques comme ça nous démontre qu'on est abruti officiellement si on n'est pas capable de gérer une situation unique.
Entièrement.
Comme celle de cette école-là.
Puis Yann, on va sauter au troisième extrait parce que juste pour vous montrer aussi comment on n'a pas pensé à tout dans ce dossier-là, les activités parascolaires et sportives vont être compromises.
C'est que souvent, ces activités-là sont plus loin. Par exemple, les élèves de Bellechasse qui viennent à la fin de l'année scolaire à l'Aquarium de Québec, ils ne sont pas capables, avec un bus électrique, de partir de Sainte-Justine, puis de monter à Québec, puis de revenir parce que l'autobus électrique n'a pas suffisamment d'autonomie. Là, présentement, ils sont encore capables de le faire parce qu'ils le font avec leur vieux bus au diesel. Quand ils les auront plus, qu'est-ce qu'ils vont faire? Autre exemple, le sport. Vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'activités sportives entre les écoles. C'est souvent les bus scolaires qui sont utilisés parce que c'est beaucoup moins cher que les bus non lisés. Donc, ces bus-là ne pourront pas aller d'une région à l'autre pour les compétitions sportives. Donc, c'est soit que les parents vont être pris à transporter leurs enfants, ou soit qu'il va falloir qu'il y ait une contribution importante qui soit donnée quelque part. Donc, c'est un exemple, mais les compagnies de transport scolaire, plusieurs ne sont plus capables déjà d'assumer l'ensemble des demandes au niveau du parascolaire.
Tu sais combien de fois il y a un tournoi sportif d'une école? Je m'en vais à Sherbrooke. Je suis à Québec pour le basket, je peux pas y aller en autobus électrique.
Est-ce que c'est pour ça qu'on voit de plus en plus d'autobus voyageurs, des autobus nolisés qui font Québec-Montréal avec des jeunes à l'intérieur?
Exactement.
Pour aller...
Oui, c'est pour ça. Mais le problème, c'est qu'il y a un coût à ça.
Ben oui.
Donc, le parent va débourser plus cher. Puis là, on est dans un contexte d'inflation. Puis là, j'ai pas besoin de te nommer toutes les taxes qui nous tombent dessus, en commençant par l'immatriculation. Fait qu'à un moment donné, il y a des enfants qui vont se priver de leur sport faute de moyens de leurs parents. Il y a aussi gouffre financier, je reviens à l'extrait 2. Éric Duhem en parle. Jusqu'à présent, il y a énormément d'argent qui a été investi par le gouvernement, que ce soit dans Lyon électrique ou dans les subventions pour les transporteurs. Puis il nomme un chiffre, je vais te dire, qui fait lever le poil sur le dos, le chiffre final auquel on pourrait arriver.
Je vous rappelle aussi, là, ceux qui ont suivi le programme à ses débuts, là, le gouvernement subventionnait à hauteur de 150 000 $ par autobus scolaire. Et la subvention, M. Fitzgibbon nous avait dit qu'elle baisserait d'année en année parce que le prix des bus scolaires électriques était supposé rejoindre le prix des bus au diesel. Or, ça ne s'est jamais produit. Donc, c'est pour ça que le gouvernement est obligé de changer sa façon de subventionner et que la subvention est restée à 150 000. Ils n'ont pas baissé graduellement tel qu'il s'est engagé au départ. L'autre élément que je veux vous dire, en fonction des chiffres qu'on a à l'heure actuelle, Adrien l'a dit, là, Lyon Électrique a déjà reçu près de 250 millions de dollars. Les transporteurs, pour leur permettre d'acheter des bus, on a déjà mis plus de 230 millions. On est rendu à près d'un demi-milliard déjà de mis. Oups, pardon. Et si on veut aller jusqu'au bout de l'électrification puis au bout du programme, les transporteurs nous disent qu'une estimée, ça pourrait être autour de 4 milliards de dollars que ça va coûter aux Québécois. Je vous rappelle qu'on est 11 milliards de dollars en déficit.
Puis ça va continuer. Lyon Électrique est à 99 cents. Lyon Électrique est rendu un penny stock.
Ben oui, exactement. Puis là, tu connais plus ça que moi, mais Éric Duhem nous expliquait que si l'action était encore en bas d'un dollar au mois de décembre, ils ça serait retiré de la bourse de New York.
Ils vont se faire crisser dehors, ouais.
C'est ça, exactement. Donc, pour ben non, mais là, c'est là qu'Adrien Pouliot prenait la parole et disait, ben, tu sais, ça va pas être d'autre chose que la faillite Lyon Électrique.
Je tiens à remercier Pierre Fitzgibbon, qui est un top gun des finances. Oui. Je suis tellement content d'avoir eu ce gars-là dans mon équipe depuis des années. Là, je reviens pas des décisions pertinentes que Pierre Fitzgibbon a prises au cours de sa carrière, là. C'est gênant.
Oui, c'est gênant.
Tu sais là, que, t'sais, écoute, j'ai payé ça 20$.
Ben, je sais.
Chaque action de Lyon Électrique, j'ai payé ça 20$.
Ouais.
C'est rendu 1$.
99 cents.
J'ai pas encore perdu. Warren Buffett a dit, tant que t'es vends pas, tu l'as pas perdu. Gardons espoir.
Je te souhaite bonne chance.
Une catastrophe. Autre chose?
Ben, face à tout ça, évidemment, le Parti conservateur fait une proposition. Je te laisse entendre Adrien Pouliot.
Ce qu'on dit, c'est on veut immédiatement mettre sur la glace le programme d'électrification des transports. Et bon, tu sais, on peut se donner une espèce de... On peut reviser la situation d'ici 2030 pour voir s'il y a eu peut-être des améliorations dans les technologies électriques.
Tu sais, je trouve que ça fait plein de bon sens. Je dirais, écoutez, là, tu sais, on met ça sur pause, on rajette des autobus au diesel, on s'assure que tout le monde est bien desservi, puis on laisse la technologie prendre, tu sais, je vais le dire comme ça, prendre en expérience, puis finalement arriver avec un produit qui va permettre de transporter tout le monde, peu importe où il est en province.
Oui, mais là, c'est sûr que François Legault ne sortira pas là-dessus aujourd'hui. Là.
Ben
on
non.
va peut-être en parler dans quelques mois en disant ben, ça vient de nous autres, ça vient pas
oui.
du Parti conservateur du Québec, mais ils n'auront pas le choix de repousser ça.
Ben, ils n'auront pas le choix parce que, tu sais, je veux dire, t'as donné l'exemple de Haute-Saint-Charles qui va à la nouvelle école à Charlebourg. Je te donne l'exemple de jeunes maintenant que c'est des autobus non lisés pour leur transport pour des compétitions sportives. T'sais. Donc, à un moment donné, ça fait plus. Il y a plein de transporteurs en région qui disent comment je vais faire. T'sais. L'exemple du gars de l'Estrie, comment il va faire, lui, avec l'autonomie de 150 km.
Mais donc. Ça, c'est vraiment... Ce sera mon seul commentaire sur la dite chose, mais en région, je peux pas croire qu'on n'a pas pensé à ça.
Ben moi aussi. C'est ce qui...
C'est une des premières choses à laquelle on réfléchit si on veut être propriétaire d'une voiture électrique, notre consommation en termes ouais. d'énergie et de kilométrage.
Fait comment qu'on a fait pour penser qu'en Estrie, puis là, je te nomme l'Estrie, je pourrais te nommer Sept-Îles,
leur parcours en termes de kilomètres.
Je pourrais te nommer Baie-Comeau. Comment le gouvernement a fait pour penser « Hey, ça va fonctionner ».
Ils pensaient que la recharge entre les deux trajets, soit du matin et du soir, était assez.
Mais là,
c'est
présentement,
quoi, super, ouais.
Mais là, présentement, les batteries ont une autonomie de 150 km. Il y a un entrepreneur de Bellechasse qui a dit à Éric Duhaime, il dit « Écoute, il dit moi, là, il dit, je suis allé chercher le nouveau bus électrique directement à Mirabel, chez Lyon Électrique, pour le ramener chez nous en Bellechasse. » Puis il dit « Ça me prend au-dessus de 8 heures parce qu'il fallait que je le recharge deux fois. »
C'est sûr que ça, c'est pas un trajet scolaire.
Non,
là,
non, mais quand même, tu sais, je pense aux jeunes qui iraient faire une compétition sportive.
Absolument, ça fonctionne
ça
pas.
Ça fonctionne pas du tout.
Ça va bien.
Oh, super bien.
Imagine-les sortir d'un bus à un autre, à quelque part.
Oui, exactement.
C'est encore plus de main-d'œuvre.
Ouais. Ben, c'est le McDo. C'est le McDo, par exemple, qui va en bénéficier. Les jeunes vont manger du McDo trois fois dans la journée.
Les haltes routières.
Tu sais, en bas, à quel point ils sont innovateurs.
Ouais.
À un moment donné, ils vont se ramasser avec des véhicules scolaires électriques, avec des génératrices arrimées dessus. Tu sais, ouais. Des génératrices au gaz.
Coller des sous en arrière.
Coller, oui, avec de la colle.
Mais tu parles de la bosse. Moi, j'ai trippé en fin de semaine. Parenthèse, je suis allé voir mon gars jouer à la polyvalente Benoît Vachon.
Oui.
Victoire des sentiers, 24-17, une remontée de dernier moment. Mais moi, ça me fait capoter. Le complexe sportif.
Le centre Castel.
Le centre Castel. Ouais. J'étais déjà allé à l'aréna, mais là, terrain de foot, terrain de base, des surfaces de décor, ouais. Des courts de basket.
Ça, c'est en arrière de l'école secondaire.
Exactement. Ouais. Puis tout ça financé par à peu près 40 entreprises.
Exact. De l'autre côté, tu as le centre Castel qui est immense. Il agit un ouais. peu à titre de centre des congrès. T'as deux belles grosses glaces là.
Ben
il y en
oui.
a une qui est là pour les gros matchs d'importance pour accueillir le public. Puis chaque banc a été commandité par un individu ou encore une entreprise. Les Beaucerons sont très, très forts sur
très
le se prendre en main. Puis oui, on veut quelque chose de bien pour nos enfants, mais on va participer. Puis le Centre Castel, pour les gens qui ont la chance d'évoluer là, puis je fais partie de ceux-là parce que ouais. mes gars, ils s'entraînent là, c'est capoté comme endroit.
Ben mais oui. c'est des gens privés qui se sont dégourdis.
Oui.
Sauf qu'on ne voudra pas autant de privés dans l'État. L'État mm-hmm. a toujours bloqué ça. Puis de toute manière, est-ce que le privé va vouloir collaborer aussi de façon aussi significative dans quelque chose de gouvernemental? Je ne suis pas certaine. certaine, ouais, déjà non, avec taxes impôts, puis comment ils contribuent financièrement.
C'est un excellent point. Et... Écoute, l'annonceur maison a pris tout le troisième quart pour remercier les commanditaires. Tu sais, il y avait un jeu, puis il disait « OK, je continue!
» Ouais, ça, c'est peut-être beaucoup. Faudrait trouver un panneau lumineux.
Ah, j'étais assis dans les estrades, j'ai dit « Colin, je t'ai soufflé pour lui.
» Ah oui, mais en même temps, tu sais, les commanditaires sont responsables du fait qu'ils ont ce jeu-là, là,
ben oui,
qu'ils ont ce terrain-là.
Le terrain est magnifique.
Exact. Éric Duhem me parlait de Youri Chassin.
Oui, il parlait de Youri Chassin parce qu'on lui a posé la question. Êtes-vous déçu qu'il s'en aille pas au Parti conservateur, qu'il s'en aille comme indépendant? Je te laisse l'entendre.
Quand on quitte notre partenaire avec qui on est depuis de nombreuses années, parce que M. Chassin était quand même un de ceux qui était là depuis le tout début de la CAQ avec M. Legault, quand on quitte un partenaire, c'est pas toujours une bonne idée de partir avec sa valise puis de s'en aller chez un nouveau partenaire. Des fois, c'est bon de se louer un petit bachelor puis de penser à son affaire avant de recommencer une nouvelle relation un peu plus durable. On veut pas se faire avoir deux fois. Et je pense que c'est ce que M. Chassin a choisi de faire la semaine dernière.
OK, donc c'est une bonne réponse.
Oui, c'est une bonne réponse. Éric Duhem dit être en discussion avec 3-4 députés caquistes qui sont très déçus. Il ne s'est pas fixé d'objectif. Faut-tu que j'en pogne un avant la fin du mandat de la CAQ? Mais je pense qu'il espère fortement réussir à convaincre quelqu'un.
En fin de semaine, mon ami, j'ai regardé le match des espoirs impliquant le Canadien de Montréal et les Maple Leafs de Toronto. Il y a des joueurs qui m'ont grandement surpris. Je ne sais pas, Pascal, si tu as regardé ce match-là.
Non.
Ça
n'intéressait
pas grand monde à part moi, je pense.
Imagine-moi, après ma barre.
Logan Mailloux a été un des leaders du premier match. Lane Hudson aussi. Florian Jacquet, en moins de 2 minutes. Merci, bonsoir.
Les
gars sont partis. Il est allé de Nassa Meyer, le frère de l'autre. D'après moi, on va le voir dans l'Américaine dans les premiers
c'est
première
clair.
Semaine, mais dès qu'on va pouvoir avoir la chance de l'essayer en haut, on va l'essayer. C'est un bon passeur. C'est un gars qui est capable de la mettre dans le filet. Ryan Backer, premier match, ça a été plus difficile pour lui. Deuxième match, tu sais, je veux dire, les patinoires là-bas sont beaucoup plus grandes que celles ici. Ryan Backer, ça a bien été au deuxième match. Sean Farrell, on le met dessus NHL ou American lui, l'année prochaine?
Ouais, c'est dur à dire, hein, parce que c'est comme un genre, c'est le gars qui est très offensif. Donc, quand tu ne mets pas ça sur les deux premières lignes, des fois, tu aimes mieux l'envoyer dans la Ligue américaine pour qu'il continue à produire offensivement puis garde un bon niveau de confiance. Fait que d'après moi, ça commence avec le Rocket. Mm.
Puis Engstrom?
Rocket
aussi.
Aussi,
c'est une surprise.
Ouais,
là,
c'est une surprise. Rocket aussi. Non, de toute façon, moi, je pense qu'à la défensive, Mailloux et Hudson vont réussir à se tailler un poste avec l'équipe. Là, moi, Logan Mailloux, je me souviens de l'avoir vu jouer en finale avec London contre Peterborough l'année que les Remparts ont gagné la Coupe Memorial. Et c'était de loin le meilleur joueur sur la patinoire de cette finale-là. Donc, moi, ça va être un vrai, je trouve, Mailloux. Des bon instant offensif, très physique. Ça va être un excellent défenseur.
Lane Hudson s'est fait montrer, c'était kimono hier. Je ne sais pas si tu l'as vu se faire brasser. Là, on est dans un match désespoir. Si ça arrive pendant 82 matchs, ça n'ira pas bien pour lui dans la Ligue nationale.
Non, exactement. Lane Hudson, je disais justement l'autre jour à l'émission, à notre émission du matin, je pense que Lane Hudson va avoir un bon début de saison, mais les équipes vont s'adapter, les équipes vont faire beaucoup de vidéos. Puis à un moment donné, c'est là qu'il va devoir apprendre à jouer différemment un petit peu pour bien garder le contrôle de la rondelle parce qu'il va jouer contre des hommes. Là.
Sinon, autre chose où j'ai porté attention en fin de semaine, c'est les capitales de Québec. Anthony Quérion, c'est digne d'un film d'Hollywood.
Capote.
Écoute, il y avait un déficit de 6-1. Ils l'ont porté 7-6. Il a fait un coup de circuit, Pascal. En 9e manche, il y avait 2 retraits contre les capitales. Lui, il était rendu à 2 prises. Il te l'a soigné l'autre bord de la clôture. Je pense que tout le monde a fait un arrêt du cœur pendant 2-3 secondes. Le temps de voir ça traverser la clôture.
C'est ça que le temps qu'elle passe. Mais non, puis il avait frappé un gros coup de circuit également de 2 points vendredi. T'sais, quand tu parles de gars qui revient de loin ou de gars qui persévèrent, Quérion avait un début de saison ordinaire offensivement. Il s'est mis à bien produire à partir du mois de juillet. Et là, les Capitales vont quand même chercher au mois d'août, à la date limite, Ruben Castro, qui était leur receveur de l'année passée. Alors, Quérion est un receveur, mais continue à forcer la main de son gérant en frappant bien. Donc, on le fait jouer au premier coussin, on le fait jouer au troisième coussin, on le fait jouer tantôt comme receveur. Mais Scalabrini, il trouve toujours une place dans l'alignement parce que finalement, le gars produit et devient le héros de la finale des Capitales. Alors que quand on allait chercher Castro, ben, on pensait peut-être le mettre comme réserviste.
Ouais, mais imagine-toi, t'es ce gars-là, là. T'es Anthony Quérion, là. Puis là, t'as 2 retraits contre toi.
Ouais.
Il y a
t'as 2 prises. T'es à une prise que le match finisse.
C'est ça. 2 retraits, t'as 2 prises. Puis c'est toi qui vas faire la différence. Là. Tu le tiens-tu, ton bâton?
Oui.
Mais il y a des athlètes qui sont renommés pour ça, oui. avoir un sang-froid en contrôle dans ces moments précis-là, mm-hmm. puis dans ces moments extrêmement décisifs. Puis il y en a d'autres qui réussiront jamais, qui vont être meilleurs dans l'action. Qui vont être... Mais cette pression-là qui est calculée, qui est même gérée chez un individu, ça me fascine. Ouais,
Tom Brady fait partie
oui,
de
ceux-là. Oui, t'as raison.
Tom Brady fait partie de ceux-là. Je vais juste regarder, je pense à un Québécois dans la Ligue nationale qui était toujours fort en série, Daniel Brière. T'sais, qui arrivait oui. en série, puis oups, il devenait complètement un autre joueur. Dynamique, marquait des gros filets.
Ça prend-tu plus d'égo? Ben, qu'est-ce que ça prend? Ça serait fun d'avoir, mettons, un psychologue sportif qui est capable d'identifier qu'est-ce que ça prend pour se rendre là. Je suis sûr que c'est des prédispositions
sûrement.
D'avance.
Sûrement. Éric Gagné. Éric Gagné, quand il était dopé, là, je veux dire, c'était game over. C'était terminé.
Quand que la personne doit quand même se dire, OK, c'est décisif. Je vais l'avoir. Et non, OK. Là, tout le monde me regarde. Eh merde, là, c'est décisif. Là, faut que je l'aille.
Mais t'as raison, c'est complètement. C'est
discours mentaux différent.
Ouais, t'as entièrement raison. C'est une préparation mentale complètement différente de dire, hey, moi, je m'en viens puis je fais la différence plutôt que, ouais, je vais essayer.
Mais tu peux être solide en disant, ouais, je vais essayer, mais ça reste que tu vas la subir différemment.
On dit toujours la confiance et l'arrogance, la ligne est mince. J'ai l'impression que c'est des sportifs qui sont toujours capables de jouer sur cette ligne mince-là, d'être capable à la fois d'être confiant, arrogant, de pas avoir peur de rien, puis de dire, OK, je fonce, puis je profite du moment.
Puis le Rouge et Or, avant de passer à la NFL, Rouge et Or, ça a bien été aussi.
Hey, Rouge et Or, ça a bien été, certain. 3 touches encore pour Olivier Cool, le receveur de passe. Il est rendu à 6 en 3 matchs.
On est-tu la meilleure équipe au Canada?
Bien, présentement, le Rouge et Or joue comme la meilleure équipe au Canada. Il n'y a pas de doute dans mon esprit. Très gros match contre les Carabins l'autre samedi au Peps. Puis là, ce samedi à McGill, bien, le Rouge et Or a passé sur le dos de l'Université McGill. Donc, oui, présentement, le Rouge et Or joue comme la meilleure équipe au Canada. Arnaud Desjardins, le carrière, a retrouvé ses lettres de noblesse d'il y a 2 ans.
Bengals contre Chiefs, quel match! 26-25, la finale.
C'était tellement bon comme
Joe
match.
Burrow!
Du début à
alors,
la fin.
Il a bien joué quand même contre les Chiefs qui se sont rendus au Super Bowl, mais parce qu'on n'a pas gagné de 1 point.
Ouais.
Ça, j'ai fâché hier. C'est rare que j'ai l'impression d'être fâché, là. Mm-hmm. Hier, je l'ai vécu.
Joe Burrow a joué un match pratiquement parfait hier parce que, tu sais, en l'absence de Tiggins, un bon receveur de passe, il a joué avec ses ailiers rapprochés, il a pris les bonnes décisions au bon moment, contrairement à Patrick Mahomes qui a lancé 2 passes d'interception. Donc, c'est très cruel qu'il ait perdu ce duel-là, Burrow, hier, c'était un super bon match pour lui.
L'unité défensive des Bengals a bien joué une interception là, avec une main, là. Je sais pas si.
Oui! C'était de toute beauté.
C'était à eux, la game, là.
Vraiment, les Bengals.
Je voulais le dire, puis c'est pas parce que je suis fan de cette équipe. Ben, en tout cas, de et Chase, mais...
Les Bengals ont mieux joué que les Chiefs, je suis d'accord avec toi. Meilleur contrôle de ballon, pas de revirement, une défensive plus agressive, une défensive qui a fait des gros jeux.
Ça m'a donné un peu espoir pour la saison,
bon point.
Chose que j'avais un peu du mal là, pour la
après la défaite contre les Pats, je te comprends. Bon point, Joe Burrow est habitué de commencer les saisons en retard. Il est 1-9 en carrière dans les 2 premières semaines. Du calendrier régulier. Donc, c'est pas la première fois que les Bengals se retrouvent dans cette situation-là. Mais hier, c'est une performance encourageante là, pour l'équipe à Pascal CV, il n'y a pas de doute.
Sinon, les Ravens contre les Cowboys.
Ouais, mais c'est Ravens et Cowboys qui ont été surpris à domicile. Les Ravens ont perdu contre les Raiders de Las Vegas. Personne ne s'attendait à ça. Puis les Ravens étaient des favoris pour le Super Bowl au début de l'année. Ils se retrouvent à 0 victoire, 2 défaites. Donc, ils se sont fait entourlouper au 4e quart par Gardner Minshew, le carrière des Raiders. Donc, on ne s'attendait pas à ça du tout. Puis les Cowboys de Dallas ont donné des touchés aux 6 premières possessions offensives des Saints à Nouvelle-Orléans à domicile. Fait que les Saints ont marqué 42 points en première demi.
Tu t'en remets pas, là.
Non, c'était fini. C'était game over, comme Éric Gagné le disait très bien.
Tu laisses-tu ton premier carrière là ou tu le remplaces?
Non, ça là, tu le remplaces. Ouais. T'arrives haut et tu prends pas de chance, surtout que Dak Prescott a signé une prolongation de contrat monstre là, de 60 millions par année. Fait que tu prends pas de chance que ton investissement se fasse blesser comme ça. On parle de surprise, les Vikings et les Bucks aussi ont eu des ont commis des grosses surprises. Les Vikings ont battu les 49ers de San Francisco à domicile pour débuter leur saison à 2 victoires, aucun revers. On ne s'attendait pas à ça avec Sam Darnold au titre de corps arrière. Si tu veux voir un jeu spectaculaire, tu iras voir la passe et course de 99 verges de Justin Jefferson. Darnold lui remet ça dans le milieu du terrain. Le ballon doit faire 45 verges dans les airs. Puis après ça, Jefferson se défait 3-4 joueurs pour s'en aller dans la zone de début. C'est écœurant. Puis les Bucks, mais encore la bonne vieille recette. La défensive a été solide. Baker Mayfield n'a pas fait d'erreur. deux passes de toucher, puis Tampa Bay est à 2-0 pour une quatrième saison consécutive. C'est impressionnant.
Le dossier Tua Tagovailoa, est-ce que c'est réglé? Parce que là, lui, il a eu une grosse commotion cérébrale. C'était pas sa première. Il y a des docteurs qui commencent à sortir. C'est pas les docteurs de la NFL, mais qui commencent à sortir en disant il devrait rester à la maison. Ce serait pas mal mieux pour lui. Là, de ce que je comprends, c'est que lui, il peut pas dire c'est terminé parce qu'il n'aura pas accès à son argent.
Exactement. C'est 141 millions, me semble, ou 124, je me souviens plus.
C'est pas grand-chose, honnêtement. Non, il n'aurait pas une grosse perte.
Je fais la même affaire.
Bon, Elliott me l'a dit dans les estrades en Beauce en fin de semaine. Donc, bref, c'est plus de 100 millions de dollars. Fait que s'il prend sa retraite, il n'a pas le droit à son boni. Si c'est les médecins qui disent « tu peux plus jouer », il va avoir le droit à son boni.
Quand même différent que nos députés fédéraux. Là.
Oui, c'est
sur
ça.
La retraite, avant ou après, ça, c'est pas notre argent.
Non, c'est ça.
C'est de l'argent privé.
Fait que tu comprends qu'il va attendre qu'un médecin dise « tu peux plus jouer », mais ça me surprendrait qu'on le revoie cette année parce que les Dolphins ont signé ce matin le carrière Tyler Huntley qui a déjà joué avec les Ravens de Baltimore. Il avait bien fait en remplacement de Lamar Jackson là, en 2022, je vais de mémoire. Donc, belle signature pour les Dolphins. Puis c'est la preuve qu'on va essayer. Je ne crois pas que Tua revienne cette année.
Les spécialistes commencent à se poser des questions. Qui est-ce qu'on va voir au Super Bowl?
Ben oui, parce que, tu sais, on se disait, hey, ça va être Ravens contre 49ers ou Chiefs contre 49ers ou on parlait des Lions de Détroit. Mais là, les Lions de Détroit viennent gagner un match en prolongation contre les Rams. Ils ont perdu contre les Bucks à domicile. Les Chiefs, deux victoires, mais deux victoires à l'arraché face aux Ravens, aux Bengals. Par contre, des bonnes équipes. 49ers, ben Christian McCaffrey, leur porteur de ballon étoile, est sur la liste des blessés. On vient de perdre au Minnesota. Alors, il y a comme tout cet échiquier-là de début de saison qu'on voyait clair, qui n'est plus du tout clair. Puis pendant ça, là, ben, t'as une équipe comme les Steelers de Pittsburgh que personne ne voyait là. La défensive est étanche, puis les Steelers sont 2-0.
J'ai une question, moi, maître football.
Ah, voyons.
Dans les deux dernières années...
C'est pas
je
moi qui parlais?
Non, clairement pas. Surtout pas quand t'as dit « Toi, Tagovailoa. »
Mais c'est quoi son nom de famille?
C'est tough à dire, je suis d'accord.
Ah, ben, gars. Toi, elle veut rire de moi, elle pas capable de le faire.
Ouais.
Je l'ai ici.
Vas-y.
Tagovailoa.
Ouais, Tagovailoa.
Très fort. Mais c'est juste ça, je sais que tu sais, mettons au hockey, je vais pas faire semblant que je vais être maître hockey là. Fait que je ne m'attends pas à ce que tu fasses maître football. Dans les deux dernières années, je trouve qu'il y a beaucoup plus de blessés.
Oui.
Que ce que j'ai vu comparativement à depuis que je suis la NFL puis le football, je pensais qu'on s'améliorait, mais il y a quelque chose de critique que j'arrive pas à mettre le doigt dessus.
Vraiment?
Est-ce qu'on se pousse trop? Est-ce qu'on s'écoute pas? Est-ce que c'est... Mais pourtant, on n'a jamais été aussi alerte. Ah, on n'a jamais eu aussi, autant de spécialistes autour d'eux pour les suivre. Qu'est-ce qui se passe?
Ah ben, je pense que je vais te dire la même chose qu'au hockey quand je parle à des spécialistes, c'est que les joueurs sont tellement rendus rapides, gros physiquement par rapport à avant que là... Quand le contact s'effectue, la vitesse est trop grande pour que le corps humain résiste.
Oh oui, ça serait ça ton hypothèse. Ouais.
Ah, puis t'as pas le background non plus de son secondaire. Il y a peut-être une couple de commotion cérébrale au secondaire.
Exactement.
Ouais, mais ça a changé beaucoup. On est vraiment plus présent dans tout ce qui est sécurité. Là. Puis même dans nos écoles ici à Québec. Imaginez les États-Unis comment sont avancés par rapport à nous. Mais je trouve l'hypothèse intéressante. Parce que
l'impact est trop fort.
On perd beaucoup de bons matchs en NFL depuis deux ans par le nombre de blessés, pour diverses blessures en plus, là, des stupides comme étant des sérieuses.
La NFL a 32 équipes et l'an passé, dans une semaine, à un moment donné, il y avait 17 carrières réservistes qui jouaient. Donc,
c'est
plus
incroyable.
De la moitié des carrières partant étaient blessés.
J'avais jamais vu ça. Là,
non, jamais.
Puis en plus, ben, c'est sûr que ça laisse une chance de faire briller certains autres, mais c'est pas le but. D'abord et avant tout, que les autres brillent parce que tu as trop de blessés.
Ben non. Et pourtant, la NFL fait tout pour protéger ses carrières.
C'est ça.
On le frappe au genou, 5-15 verges. On le frappe à la tête, 5-15
verges. Les pénalités
verges.
Sont
On le frappe
sévères.
Un petit peu trop tard, 5-15
On change
5-15
les règles
verges.
Comme cette année.
Exactement. Donc, on fait tout pour protéger les joueurs, mais malheureusement, ça ne porte pas fruit.
Joe nous dit au 418-971-1021, il voit les Bills au Super Bowl.
Ah ouais?
Ben les Bills,
ça, c'est
honnêtement...
C'est un fan des Bills, c'est ça, pour écrire ça.
Ouais, mais les Bills, honnêtement, c'est...
Choker.
Comment je pourrais dire? Ouais, c'est choker, mais c'est vrai que ça peut être un bon long pick puis long shot. Puis je m'explique, c'est parce que on les voyait là il y a deux ans, on les voyait là l'année passée, ils n'ont pas réussi. Puis là, souvent, quand tu oublies une équipe, on dirait que c'est là qu'elle revient. Puis depuis le début de la saison, les Bills font les choses de la bonne façon.
Mais pas grâce à Josh Allen.
Non, mais c'est ça, ils font les choses. Écoute-moi, ils font les choses de la bonne façon en courant le ballon.
Ouais, c'est ça. Ben là, moi, Josh pourrait arriver, gâcher ça.
OK, puis en 30 secondes, premier gain pour les Jets d'Aaron Rodgers, puis les Browns de Deshaun Watson.
Ouais, deux carrières qui avaient beaucoup de pression hier. Aaron Rodgers, après la défaite à San Francisco, on ne voulait pas partir à 0-2 du côté des Jets. Donc, victoire à l'arraché 24-17 sur les Titans de Tennessee. Puis les Browns de Cleveland, après la catastrophe à domicile contre les Cowboys, sont allés surprendre les Jaguars à domicile. Deshaun Watson a marqué un toucher au sol. Donc, on revient également dans le portrait du côté des Browns.
Jeff Fortin, un gros merci. On te reparle demain matin dès 6h avec la belle gang de Rage Against le matin.
Merci à vous, Zao.
Merci. Nous autres, on s'en va en musique. Pascal, tu vas l'aimer, celle-là.
Oui, t'as raison.
Linkin Park.
Un de mes meilleurs shows à vie, ça. Oh ouais. Sur les plaines d'Abraham.
Tu les avais vus sur les plaines d'Abraham? Ouais. Je les ai jamais vus, moi.
Un déluge, j'avais tout jeté.
C'était en quelle année, ça, tu t'en souviens?
Eh, mon Dieu, de 2009, dans
2009.
Ce coin-là.
Linkin Park, Indian, dans vos oreilles, sur Boulevard. It starts with love.